carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Sacha Guitry vous offre son bras, prenez-le avec bonheur. Montez sur le tapis volant de l'escalator du hall Est de la Bibliothèque nationale de France, déposez gratuitement aux vestiaires manteaux et parapluies, choisissez un de ces fauteuils rouges bien confortables, engagez-vous dans la rangée rikiki, jouez les Parisiens, quelques œillades à vos voisins, jouez les accros du portable et, bien entendu, vous faire sonner en plein spectacle serait regrettable, éteignez-le. Préparez votre téléportage sur la planète Sacha de la galaxie 1900. Tentez un mot d'esprit, le rideau n'est pas encore levé. Vous vous faites déjà un film, Pauline Carton est derrière vous.
Cette valse fait bien, être moins valse et ne pas dater, il ne sent pas combien.
J'ai eu l'honneur d'assister aux répétitions du spectacle Sacha en chanson et nous avons eu la grande chance de pouvoir interviewer à la fois Noël Giret, qui est conservateur à la Bibliothèque nationale de France et qui était là pour assister à la répétition. J'ai ensuite interviewé la comédienne chanteuse Isabelle Ferron, Gilles Vajou, également comédien chanteur, et puis le pianiste du spectacle, mais aussi l'arrangeur et le complice de Christophe Mirambeau, Jean-Yves Hézic. Et pour finir, nous avons également une très belle interview de Christophe Mirambeau. Retrouvons-les tout près de la scène, dehors devant l'auditorium et dans des endroits un petit peu plus calmes, mais aussi presque quasiment sur les planches du théâtre.
On n'est pas des azous pour ça. On a ses goûts et ses dégoûts. Tariratsouin, tariraru.
Noël Giret, bonjour.
Bonjour.
Le 26 novembre prochain, très très bientôt, lundi, va se tenir la soirée de gala consacrée à Sacha Guitry.
La première. Il y en a deux.
Première. À la Bibliothèque nationale de France. Et on est aujourd'hui, c'est un jour de répétition, vous avez la gentillesse d'être ici. On profite de vous pour vous poser quelques questions justement sur le matériel, disons, qui a permis de constituer ce spectacle. Toutes les chansons qui sont là sont des inédits, d'autres sont connues, ça vient du fonds Guitry dont vous vous occupez à la BNF.
Voilà, oui, c'est vraiment comme un spectacle, cette partie musicale qui surgit des archives du fameux fonds Guitry que nous conservons et qui a permis l'exposition. C'est-à-dire qu'inédits au sens qu'elles n'ont jamais été enregistrées, mises sur disque, même pour certaines partitions, elles n'ont pas été éditées. Donc c'était vraiment cette partie-là à faire revivre. À partir du moment où ça n'avait été ni mis sur disque, ni les partitions n'avaient pas été éditées, c'est vrai que c'était une facette moins connue de Guitry. On sait qu'il a finalement beaucoup composé de paroles, de livrets, de musique, de chansons, mais on avait un petit peu perdu de vue l'ampleur, la diversité, le côté aussi un petit peu déjanté qui apparaît justement dans les paroles, entre autres, de revues.
Alors, justement, le spectacle commence par un extrait de revue, oui, avec plusieurs chansons. La revue, effectivement, ça avait beaucoup d'importance à cette époque, les revues de fin d'année. Et là, on va entendre cinq chansons. La chanson de la grue, la chanson du pompiérisme, la grippe espagnole. Ce sont des chansons en lien avec l'actualité, mais en même temps avec une actualité avec laquelle Guitry prend beaucoup de distance, s'amuse, se moque des ministres, des gens en place. Est-ce que ça, c'était habituel ou c'était vraiment nouveau ?
La revue en soi est en effet un genre qui est tout à fait intéressant d'ailleurs, très très amusant, parce que c'était la revue de fin d'année, donc tout y passait, la politique, le fait divers, la vie de personnages célèbres. Mais c'est vrai que quand Guitry, de toute façon artistiquement, quand Guitry s'empare d'un genre, je crois que c'est une obligation chez lui
de
changer les règles avec son ami Albert Wilmette, qu'il faut citer aussi, parce qu'il y aura aussi du Albert Wilmette aussi en liaison avec Guitry, puisqu'ils ont beaucoup travaillé ensemble sur les revues et la musique. Et donc c'est vrai qu'il n'a pas forcément continué ce genre, y compris la meneuse de revue, puisque c'était toujours la revue menée par quelqu'un, par une actrice, comédienne, chanteuse. Et il a apporté
son grain
de sel, ses goûts à lui et son regard à lui sur ce qui se passait.
Si bien que les chansons des revues qui étaient écrites pour l'année en cours sont devenues aussi des objets de création indépendants
qui sont un peu qui existent par elles-mêmes, pour elles-mêmes, en dehors de la revue. Là, c'est ce qu'on voit, c'est pas la revue complète. Non, ce sont juste des extraits de chansons.
C'est les extraits de la revue de Paris qu'elle avait créée en 1918. Et en effet, les limites, les airs isolés peuvent complètement se chanter et s'interpréter en dehors même du scénario global de la revue.
De la ça revue. Fonctionne très voilà, bien. Ça fonctionne très bien. Ouais. Les textes sont des textes drôles.
Drôles, oui. Très drôles. Oui, ça, c'est la drôlerie habituelle.
Alors, sur la grippe espagnole qui peut paraître triste, en fait, c'est une. Il passe en revue toutes les maladies qu'on peut attraper de la naissance à la mort pour s'achever justement sur la grippe espagnole qui avait une triste actualité à la fin de la Première Guerre mondiale puisqu'elle a ravagé l'Europe.
C'était à la fois l'esprit de l'époque et son propre esprit à lui. C'est toujours, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait un côté pratiquement, on pourrait dire, pas toujours politiquement correct. Mais c'est qu'on prenait un sujet aussi sinistre et grave que la grippe espagnole et hop, on y allait. Et on en faisait une partie de rire. C'est vraiment, quand on parle d'esprit innocent, esprit belle époque, c'est tout à fait ça. Et Guitry en est l'enfant.
Et ces textes étaient inédits, là, de ces chansons? C'est-à-dire qu'on ne les a pas rejoués. On avait les textes. Dans le fond, Guitry, par exemple, vous aviez les...
La revue, non, en effet, je l'ai créée en 18, mais elle n'a pas été rejouée. Les partitions n'ont pas été éditées. Donc, je salue Christophe Mirambeau, qui est le metteur en scène, le maestro de cette affaire. Nous sommes connus, justement, au moment de l'expo Guitry. Et j'ai demandé à Christophe de faire, en tant que musicologue, un article sur Guitry, la musique, la chanson, la comédie musicale.
Naturellement, voilà.
Et donc, ça s'est poursuivi, c'est lui... Parce que moi, je dois avouer mon forfait, je suis un foutu de lire une note de solfège. Je dessine à peine et mal une clé de sol. Et donc, en même temps, il a jeté un regard d'expert sur le fond et les archives et détecté ce qui a permis de construire cette partie de spectacle, des choses donc inédites. Voilà.
Donc,
la revue de Paris surgit du temps 1918-2007, c'est presque un anniversaire.
Eh oui. Alors, dans le fond, on a les textes, on a les partitions. On a aussi, par exemple, pour cette revue-là de Paris, pour ces chansons, des petits croquis de Sacha Guitry, comme il en avait l'habitude.
Des photos, des jeux de photos super. Oui, toujours,
ils étaient
toujours des. Oui, absolument. Il y a vraiment toutes les variantes des textes et toutes les partitions d'orchestre. Et par ailleurs aussi, d'ailleurs, pendant le spectacle, des photos seront projetées.
Oui, alors il va y avoir toute une...
Qui vont remettre un peu en situation.
Plusieurs surprises. Plusieurs surprises, un mélange des genres cher à Guitry qui est aujourd'hui perpétué par Christophe Mirambeau et par les acteurs, effectivement. Alors, il va y avoir trois petites parties dans ce spectacle. Qu'est-ce que c'est que la parade, le phénomène? Il y a une chanson qui s'appelle « Chacun son goût ». De la parade, le phénomène, création Rému.
C'était ils ont beaucoup travaillé ensemble. Hein. Rému, acteur très peu connu, avait été déjà découvert par le père de Sacha, par Lucien Guitry, qui lui avait dit « prends-le ». Et donc, en effet, il a fait travailler Rému, aussi bien en théâtre, on va retrouver Rému aussi dans les films de certains films de Guitry. Et donc, c'était une parade écrite pour Rému, interprétée par lui, dont nous avons la partition, mais donc ça n'avait jamais été enregistré. Et bon, quand on dit que Guitry n'avait pas la tête politique, ce n'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus. C'est bien la preuve.
Voilà, exactement.
C'est déjà des attaques sur, évidemment, la vie chère, les impôts.
C'est très critique.
C'est un peu la chanson du contribuable. Voilà.
Oui, la chanson est très critique.
Elle est très critique.
Elle est très critique, on ne s'y attend pas. Et alors, le compositeur de l'époque, c'était Henri Christinet.
Comédie musicale de l'époque. En collaboration d'ailleurs largement aussi avec Albert Villemette. Maintenant on oublie un petit peu, mais tous ces gens-là. Quoique, il y a un retour, il y a un retour à l'opérette et à la comédie musicale. Mais Christinet était un des grands noms.
Qui signait les comédies musicales
de l'époque.
Alors, est-ce que c'est tout à fait de la comédie musicale ou c'est Guitry qui l'invente, la comédie musicale?
Je crois même que c'est lui qui a trouvé le terme. Apparemment, ce serait bien
lui.
C'est-à-dire aussi bouleversant les codes habituels, c'est-à-dire qu'en général, c'était la musique se composait et le librettiste, le parolier, devait plaquer sa chanson, enfin, caser ses paroles dessus. Lui, il a inversé en tant qu'écrivain, auteur dramatique, il a inversé le propos et c'est lui qui commençait à écrire
et la ensuite musique, la musique.
Voilà, se plaquer dessus. Enfin, s'harmoniser avec lui. Mais voilà, la première démarche était faite comme ça. Et donc, c'est en ça qu'il a participé, toujours avec son vieux camarade Villemette, à cette modernisation. Et le terme comédie musicale, oui, je pense que c'est lui qui l'a inventé. Parce qu'on parlait plutôt d'opérette. Il y avait l'opéra comique et puis l'opérette.
Dans le fonds Guitry, qui est à la Bibliothèque nationale de France, Noël Giré, il y a une opérette de Sacha Guitry, Le dernier troubadour, qui est représentée lundi prochain. Alors, parlez-nous de cette opérette qui n'a jamais été représentée et qui n'était pas achevée.
C'était un projet important puisqu'il était avec Charles Trenet. Trenet devait faire la musique, c'était en 1942. Geneviève Guitry, donc, qui était sa quatrième épouse, qui avait un très joli filet de voix, devait être l'interprète. Guitry, donc, n'en a fait qu'un premier synopsis, avec une partie déjà assez abouti, si bien écrit, mais enfin, ce n'est encore qu'un synopsis. Et évidemment, c'était l'époque de l'occupation, donc il fallait que ce soit soumis à la censure allemande. Et le projet n'est absolument pas passé, dans la mesure où c'était une allusion à l'occupation, puisqu'une fée surgit et propose à deux jeunes gens qui se pose des problèmes sur l'avenir de la France, d'aller voir un tour en 1429, époque de Jeanne d'Arc, donc de l'occupant anglais. Et en effet, dans le fond Guitry, lui-même l'a raconté, l'a noté dans ses mémoires, mais c'est également, on a les papiers, c'est qu'à la commandant Tour, ils ont considéré que c'était un projet qui aurait trop fait plaisir aux gaullistes. On aurait vu trop d'allusions entre les Anglais occupants et les Allemands occupants. Et donc, le projet a été arrêté. Et après, il ne l'a pas repris après la guerre avec Trenet. Chacun a continué sa route.
Donc aujourd'hui, on parlera peut-être avec Christophe Mirambeau, puisqu'il y a une création
musique,
donc, aujourd'hui
de ce
travail de Guitry qui est resté tel que.
Et qui est très intéressant parce que c'est une thématique qui d'ailleurs nous a beaucoup intéressé quand on a fait justement l'exposition, c'est Guitry, l'histoire, Guitry, le passé. Mmh. Il y a de très jolies choses sur le rapport au personnage historique, le rapport à la mémoire, le rapport la force du passé pour aider à vivre le présent. Donc cette petite chose, parce qu'évidemment c'est pas très très long, est très intéressante sur le plan de la thématique de Guitry et de l'histoire.
C'est là qu'on entend, on n'est pas des azous pour ça.
Et puis il y a les azous.
Partons aussi, c'est le titre, donc c'est plus que des allusions quand même.
Oui, on peut comprendre qu'en fait ça n'est pas passé.
Le texte était quand même subversif.
Oui, mais ce n'est pas été sa première tentative. Il a eu une première pièce qui était interdite, comme ça, que nous avons dans les archives, qui s'appelait Mon Auguste Grand-père, avec une parfaite insolence, il se moquait des lois raciales.
Oui. Et on a donc comme document.
Et qui est interdit également. Le texte existe, oui. Mon Auguste Grand-père, le texte, la pièce, alors qui est aboutie, qui a été écrite, existe. Et pareil, ça n'a pas eu le visa de l'occupant, parce que ça se moquait de. Et ça cognait contre leur fameuse et ignoble loi raciale.
Et on a les documents de la censure qui
donne
la réponse
absolument.
Négative à Sacha Guitry.
Absolument, oui, bien sûr.
Noël Giré, dans le spectacle, on entend un moment. La chanson de la cravate, qui a été composée par Vincent Scotto, et qui est interprétée par tout le chœur des comédiens, là, tutti.
Cœur déchaîné.
Et c'est une chanson qui a été écrite dans des circonstances particulières, des circonstances de cérémonie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que nous avons quand même très peu d'informations, mais c'est très, très, très drôle.
Mais ça, c'était pour quand Robert Trébor a reçu la cravate de commandeur de la Légion d'honneur. Et ça fait partie des petits accroche-cœurs Guitry. Alors qu'on ne connaît pas, c'est complètement inédit, parce que ça faisait partie, c'était amical.
C'était pour
les amis, donc le Guitry, qui était lui un grand brasseur de comédiens, un grand comédien lui-même, n'avait pas de peine à avoir les stars de l'époque qui faisaient également partie de sa troupe, donc les Moreno, les Morlaix, et il écrivait ça sur mesure pour un copain.
Pour la circonstance, le jour où il reçoit de la Légion.
Ça fait partie aussi d'une facette du travail de Sacha Guitry, qui n'est pas totalement connue, parce que Guitry était un grand organisateur de galas. Et pour la circonstance, c'est un homme très généreux. Donc, il était à la tête de l'Union des artistes, il aidait les vieux artistes à la retraite. Quand c'était la guerre, c'était les prisonniers. Et donc, il organisait ça et il écrivait en général des petits sketchs. Et qui aussi sont inédits, puisqu'aucun n'a finalement été édité. Et il le faisait finalement avec autant de soin qu'un grand spectacle.
Tout à fait, puisque c'est à la façon des grandes voix de l'époque qui sont tous
très
ses amis.
Ouais.
Donc on entend Delubac, à la façon de Delubac, à la façon d'Arletty, à la façon de Pauline Carton, et chacune, chacun des stars de l'époque, On ne sait pas si c'est elles qui ont prononcé elles-mêmes.
Si, c'est ça. Oui, c'est pour ça que si ça avait été filmé, ces gars-là, c'est des petits bijoux. En fait.
D'accord.
Donc, vous avez les meilleurs de l'époque. Et
donc, elles ont accepté de jouer le jeu. C'est un bijou de quelques minutes, bourré d'humour sur la façon dont on reçoit une distinction honorifique de la part du gouvernement français. On entend « n'a pas raté la commande, celui qui vous a fait commandeur ». Et on a donc là un très très beau moment de la fantaisie de Guitry, de sa distance et de son humour.
Et toujours cette façon de ne pas se prendre au sérieux et de ne pas prendre tes copains au sérieux.
Et y compris ses copains, puisque de Luba, qu'il
aime, fière d'être des
qu'il aime, elle dit qu'elle chante comme... Enfin, il lui fait dire qu'elle chante comme une savate.
Absolument, oui.
Pour rimer avec cravate. Vous avez ça dans le fameux fond Guitry.
Dans le fond, ouais, absolument. J'ai très envie de continuer à travailler sur les galas, parce que c'est bourré de petites choses comme ça. Et je vous dis, le regret que ça n'ait jamais été filmé, très peu, enfin peut-être un gala a été filmé, c'est-à-dire avec Pauline Carton. D'ailleurs, ça passera en film pendant le spectacle. Mais sinon, c'était des bijoux, parce qu'ils faisaient ça avec le même soin qu'une grande pièce ou un film d'une heure, il n'y a pas de problème. Et puis, il avait les meilleurs dans sa troupe, et ses meilleurs venaient jouer pour lui, faire une petite pirouette sur scène, 5 minutes, 10 minutes, voilà. Ça, c'est les Guitry qu'on connaît mal. Il serait bien de les révéler un peu.
Merci Noël Giray de nous avoir fait découvrir l'envers justement de ces petits bijoux grâce à toute votre connaissance de ce fond Guitry. Et merci beaucoup.
Merci.
Alors, Marguerite Moreno. Moi je suis celle qui déclame et je dis de toute mon âme, de mon martre jusqu'à mon rouge, félicitons l'homme de goût qui juste après un coup de rouge t'a mis beaucoup.
Bonjour. Vous êtes comédienne et chanteuse et vous participez à un spectacle pour le gala organisé autour de Sacha Guitry à la BNF. Quelle est la difficulté de chanter des textes de Guitry ?
Alors la difficulté, c'est que c'est un langage qui est paradoxalement qui est très parlé mais qui est très écrit. Et il y a souvent des expressions qui sont un petit peu datées maintenant, qu'on n'emploie plus et qui sont très difficiles à retenir, comme dame, bien entendu, cependant, certes, des choses qui arrivent comme ça en plein milieu d'une phrase, somme toute, enfin bon. Et c'est assez difficile à retenir, effectivement. En même temps, si on veut bien faire l'effort de retenir correctement ce qu'a écrit Guitry, puisque c'est quand même très très bien écrit, si on veut bien faire l'effort de retenir ces textes, c'est très rythmé, c'est très musical, finalement. Cet homme était très très doué pour écrire...
C'est le rythme de la langue aussi, ouais. Qui aide.
Oui,
qui
oui.
Qui veut être repère.
Plus tout à fait, c'est ce qui permet de retenir,
d'accord.
Oui, le texte. Oui.
Qu'est-ce qui vous plaît à vous, là, dans le spectacle ? Jouer du Guitry aujourd'hui, quel plaisir c'est ?
D'abord, le français... C'est très très bien écrit. Et puis nous jouons des choses originales, hein, qui n'ont jamais été, notamment le dernier troubadour. Le dernier troubadour est une œuvre qui n'a jamais été jouée. Donc bon, ça a toujours un plaisir de découvrir.
Dans cette dernière œuvre, qui d'ailleurs clôt le spectacle, que Guitry n'avait pas achevé, donc qui est exhumée, qui est remise en scène, qui est représentée ce lundi prochain, vous interprétez une fée.
Ah oui, oui.
Alors, comment vous ressentez ça ?
Oh, c'est une métaphore, tout ça, c'est bien sûr, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas premier degré. C'est ce qui est intéressant, c'est justement toute la métaphore sur l'histoire, évidemment, de l'époque. Et puis aussi, une espèce de, pour moi, je le vois aussi comme une espèce de pastiche, de parodie de gens qui n'ont pas de culture. Je suis une fée qui va leur permettre de remonter dans le passé. Surtout pour leur dire, écoutez, lisez vos livres d'histoire, soyez au courant de ce qui se passe chez vous avant de critiquer, avant de dire, C'est un peu ça, la bêtise avec le manque
de
culture.
Vous êtes une fille qui apparaît à un couple. et que vous allez emmener, enfin, on suppose, dans
voilà,
le temps.
On suppose, voilà, que je vais faire remonter, à qui je vais permettre de faire remonter le temps en 1428 ou 29. Donc, effectivement, une date qui n'est pas non plus extraordinaire, on s'en fiche, quoi, finalement, de cette 1428 ou 29. Donc, c'est vraiment, tout ça est métaphorique.
Et cette fée, elle a du mal à les convaincre, effectivement. Il y a un contexte particulier à cette époque quand Guitry écrit cette pièce, celui de l'occupation, et non pas forcément... ce couple a peur, c'est un petit peu la France de l'époque. Et quand vous êtes cette fée qui essayez de les convaincre, vous pensez à une situation contemporaine analogue ou pas, où le texte l'emporte c'est l'aspect historique.
Le texte l'emporte parce que c'est du Guitry, effectivement. Après, au niveau des parallèles qu'on peut faire avec notre histoire d'aujourd'hui, c'est pas très difficile. Ça existe aujourd'hui encore, malheureusement, un peu partout dans le monde. Donc, on n'est pas tellement décalé par rapport à ce que raconte Guitry dans le dernier Troubadour. On est plus décalé par rapport à la langue que par rapport à l'histoire, véritablement. S'il y a des choses absolument terribles qui se passent partout aujourd'hui dans le monde, donc...
Alors, il y a dans le spectacle un petit bijou qui est la chanson de la cravate, dans laquelle vous êtes Jacqueline de Lubac et Arletty. Et c'est une chanson composée à l'occasion de la remise de la Légion d'honneur à Robert Trébor. Et donc, Guitry a fait venir tous ses amis pour cette chanson. Et vous faites une Jacqueline de Lubac qui dit qu'elle chante comme une savate. J'imagine que vous prenez tous du plaisir à chanter cette chanson.
Oui.
Parce qu'elle est rythmée. Alors, qu'est-ce qui fait le liant et la force de cette chanson? Comment vous l'interprétez pour ce soir?
En fait, ça, c'est pas très difficile. Il suffit de regarder les films de Guitry dans lesquels joue, par exemple, Jacqueline de Lubac, qui était une de ses femmes parmi tant d'autres. je crois qu'elle était la troisième, d'ailleurs. Quatrième, je ne sais plus, qui jouait très faux, elle jouait pas très bien, c'était une très jolie femme, mais elle jouait pas bien du tout, et donc elle chante aussi mal qu'elle joue, mal aussi, donc c'est assez rigolo à faire, chanter faux quoi, s'amuser à chanter faux pour jouer ce personnage.
Vous le faites vraiment très très bien, parce que nous on a assisté à la répétition et on riait beaucoup.
Quant à Arletty, c'est l'image d'Arletty, c'est le plaisir de... pas limité, je n'aurais pas cette prétention-là, j'ai ni la voix, ni le physique, ni le talent, mais s'amuser en tout cas à se rapprocher un petit peu de cet accent gouailleur qu'elle avait, très titi parisien.
Elle
voilà.
joue spinaille, c'est ça qu'elle...
Elle joue spinaille parce qu'elle n'aime pas qu'on l'émouscaille. C'est très joli, hein, au niveau de la langue, très joli.
Merci Isabelle Ferron.
Merci à vous.
Oh, ça m'est...
Mais qui êtes-vous, mademoiselle?
Je suis une fée, madame.
Comment, dites-vous?
Je suis une fée.
Ah, vous êtes une fée?
Oui, monsieur.
Tout bonnement. Et par où êtes-vous venue?
Par l'escalier de service. Dame, je viens pour vous rendre service. En vérité, je vais vous dire, il est très impratique de se promener en fée. Vêtue de voiles blancs qui traînent sur le sol, on se fait remarquer,
bien sûr.
Ou bien alors, il faut constamment faire des petits miracles, et c'est très fatigant. Si je vous disais que 5 petits miracles, c'est beaucoup plus fatigant qu'un grand. Or, habillée ainsi, j'ai pu me glisser dans la maison sans éveiller l'attention des concierges.
Si c'est quelqu'un qui se moque de nous, c'est très bien faire.
Non, j'ai pas l'impression que cette demoiselle se moque de nous.
Oh, mais toi, tu ne demandes qu'à croire au merveilleux. Hein.
Pas vous, madame.
Mais non, moi j'aime mieux la vie, la réalité.
Oui, en somme, vous préférez faire les miracles vous-même.
Voilà.
Cela se voit dans vos yeux. Et vos ravissantes mains en sont également la preuve. Hein? Elles semblent brassées d'invisibles objets. Et féerique, vous-même, vous redoutez la concurrence.
Exactement. Évidemment, je me verrais faire un miracle que ça, ça me troublerait.
Tout de même.
Oh ben oui.
Gilles Fajou, bonjour.
Bonjour.
Dans le spectacle qui va être joué lundi prochain, vous interprétez une chanson qui s'appelle « La chanson du pompiérisme », écrite par Sacha Guitry, une chanson qui est très très drôle, une véritable critique.
Oui.
Qu'est-ce qui vous plaît dans l'interprétation de cette chanson?
Justement, c'est cela. C'est l'art du pamphlet. L'art de pouvoir chanter quelques vérités comme ça, un peu grinçantes, et puis qui font rire... encore aujourd'hui, et qui font peut-être grincer encore aujourd'hui, je ne sais pas.
Alors c'est sur le goût, et ça revient aussi un petit peu
sur... C'est sur le goût, c'est sur...
le goût conventionnel des...
Peut-être l'inculture, ou je ne sais pas, ou en tout cas l'étroitesse d'esprit, ou peut-être le manque de curiosité, finalement.
Alors, cet esprit gris-tri, vous l'interprétez aussi dans une autre chanson, enfin, qui n'est plus au répertoire, là, qui vient d'être supprimée, mais qui était Chacun son goût. Mais oui. Vous étiez vraiment dans cet esprit, dans le choix des chansons que vous aviez à interpréter.
Voilà, c'est pas moi qui ai choisi, le metteur en scène, Christophe Mirambeau. Oui, Chacun son goût, là, c'était vraiment, en plus, à l'heure d'aujourd'hui, où nous sommes un peu envahis par les grèves, c'était une chanson qu'on pouvait brocarder dans les rues. C'est vraiment, c'est ça, c'est la chanson protestataire, quoi. Mais j'en fais une autre aussi qui est À chacun son goût. Ça, c'est une chanson qui était interprétée par Reggiani, je crois. Mais là, on essaie d'avoir un peu de distance, un peu de dérision par rapport à cette chanson qui est quand même relativement triste, puisque rien ne vaut la peine de se foutre à l'eau, alors qu'on a plein de soucis. Alors, il parle de la femme qu'on connaît le mardi et qui nous quitte le mercredi, les amis sur qui on ne peut pas avoir, sur qui on ne peut pas compter vraiment. Et puis, il finit par lui-même, par soi, finalement.
Ça, c'est donc, la balade.
C'est la balade en si bémol.
La balade en si bémol. Une chanson triste. Voilà. C'est-à-dire que dans le spectacle, il y a des choses très fantaisistes, très drôles, très critiques, très subversives. Oui. Et puis, il y a aussi...
Ah oui, il y a de la bonne humeur, quand même.
Oui, alors, Guitry, il y a presque... Aussi, que de la bonne humeur, et puis il y a cette petite pointe d'amour et de tristesse aussi. Quand même.
Oui, alors on essaie de ne pas trop tomber dans la tristesse.
Oui, c'est une tristesse très
difficile. Il faut garder beaucoup de recul parce que justement, c'est, à mon avis, c'est plus intéressant aujourd'hui de la faire comme ça. Quoi.
Quelle est la difficulté pour vous d'interpréter ces textes ?
Oh, la difficulté, c'est-à-dire qu'on passe de personnage en personnage et il faut vite rentrer dedans. Il faut être vite très clair pour le public, faut vite qu'il comprenne l'humeur, l'intention de ce qu'on raconte, quoi. Mais c'est un exercice de style que j'apprécie particulièrement et qui il y a pas réellement de difficulté, il y a juste de l'excitation.
Est-ce qu'il y a justement un moment d'excitation ultime, on va dire, dans le spectacle pour vous, c'est lequel? Parce que il y a des moments forts, il y en a plusieurs.
Oui, ils sont tous différents. Ils sont tous différents. Peut-être, moi, j'aime beaucoup la scène du dernier troubadour.
Voilà, ça, alors là, vous interprétez dans cette opérette inédite, dans cette comédie musicale qui n'a jamais été représentée, qui était inachevée par Guitry. Vous interprétez, alors il y a une fée et un couple.
Voilà.
Et la fée propose à ce couple de les faire voyager dans le temps. Ouais. Elle les invite à partir. Et Guitry écrit ça pendant la guerre, sous l'occupation, en 1942. Et vous jouez le mari, suppose que c'est un couple marié.
Oui, tout à fait.
Alors qu'est-ce qui vous plaît là?
C'est toute cette montée, cette discussion presque anodine, et puis d'un coup c'est le réveil de la conscience qui est personnalisé par cette fée, et puis ça se passait en plus à l'époque où il y avait la guerre, donc quand la fée nous demande mais qu'est-ce que vous vouliez savoir en faisant tourner les tables, en tirant les cartes et tout ça, c'est comment tout ça finira, le tout ça c'est la guerre, et puis c'est un peu ce qu'ils étaient en train de vivre à l'époque, quoi. Et puis c'est vrai que dans ces moments-là, il y a toujours des gens qui ne pensent qu'à eux et qu'à leur petite vie, et là la fée leur fait prendre conscience qu'en fait ils pensaient à la France, ils y pensaient ensemble, et ils pensaient à la France et aux autres, à tous les Français, et donc voilà, c'est cette prise de conscience qui est intéressante à jouer dans cette pièce, surtout qu'elle vient vraiment tout doucement, c'est l'éveil, donc par des petits mots, des petites phrases, comme ça, c'est... Alors c'est à la fois absurde, et puis à la fois très proche de nous, et je crois encore aujourd'hui très, très proche des réalités, quoi, que nous vivons chaque jour.
Quelle est la partie humoristique du spectacle qui vous amuse le plus?
Moi, c'est finalement tout ce qui est absurde. J'aime beaucoup l'absurde, que ce soit en théâtre ou en chant.
Et dans la langue de Guitry, l'absurde, là, dans ce spectacle, pour vous, c'est quoi?
C'est donc ce dont je viens de parler, le texte. D'un coup, on part d'une situation du quotidien et on s'en va, et il nous amène dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire, avec toutes ces questions presque infantiles de comment ça va faire, mais comment ça va marcher, sans se poser vraiment la question on fait un voyage dans le temps. Ah oui, mais ça, c'est pas très important, mais est-ce qu'on doit emporter nos valises? Est-ce qu'on doit emporter une écharpe? Et voilà, c'est ça, quoi. C'est Ouais, c'est presque
c'est
le monde.
C'est comme les jeux de l'enfance.
Oui, voilà, tout à fait, c'est... tout à fait.
Sur des choses très sérieuses.
Voilà, exactement. La part de l'enfant chez chacun d'entre nous est bien là, et puis c'est vrai que Guitry permet de faire ressortir ça.
Sur le chant, qu'est-ce qui est le plus difficile de se caler sur le rythme, sur le texte quand vous chantez?
Il y a beaucoup de textes.
Il y a beaucoup de mots. Oui, il y a beaucoup de choses. Donc,
oui, il faut bien travailler son articulation.
D'accord.
Non, il y a beaucoup de débit.
Ça a l'air d'être vraiment
débit.
Une prouesse. On vient d'assister à la répétition. Et ouais. Bon, ça n'a pas l'air évident. Et pourtant, quand nous, on l'entend, on n'a pas l'oreille très musicale, avouons-le. On trouve ça merveilleux. Donc, on vous entend,
vous voir
revenir. Il faut que
vous trouviez ça merveilleux. Il faut que vous trouviez ça drôle et surtout facile.
Oui, oui.
Quoi qu'il arrive.
Comme Guitry le souhaitait.
Voilà.
Alors, bonne chance pour le spectacle.
Merci beaucoup.
Merci.
Ah, je voulais juste préciser une chose. Peut-être que vous l'aviez fait. C'est que les chansons qui sont dans le dernier Troubadour sont des créations. La musique est une création de Patrick Laviosa. Voilà.
Gilles Vajou, merci beaucoup.
Merci à vous.
Oh, n'ayez pas peur. Je ne suis qu'un symbole. Je ne veux surtout pas que vous vous y trompiez. Je suis le symbole d'une certaine école. L'école du factice, l'école du pompier. Je laisserai gueuler tout ce qui me débile tant que j'aurai pour moi la majorité. N'étant pas de ceux que l'on assassine, ils ne pourront rien contre le pompier. Car je fais pâmer le bourgeois stupide qui prend pour de l'art ce qui n'est que du métier. Il trouve ça superbe, il trouve ça splendide, il trouve ça très beau parce que c'est pompier. Quand c'est pas pompier, il n'y comprend goutte. Vous savez ce que c'est qu'un pauvre rentier. Si vous lui montrez du vrai sale des routes, il n'y voit que du feu. Pensez bien pompier.
Jean-Yves Zic, vous êtes directeur musical du spectacle consacré à la soirée de gala, voué à Sacha Guitry, lundi 26 novembre à la Bibliothèque Nationale de France. Vous avez arrangé ou pas les musiques de ces chansons?
Pour toutes les chansons issues du spectacle, pour toutes les premières chansons, on a retrouvé le manuscrit du chef d'orchestre de la Revue de Paris. Donc ça, c'est un manuscrit qui est en fait un piano chant, donc une partition de piano. Donc je m'inspire de ce qu'il y a d'écrit et de ce que j'ai pu apercevoir dans les partitions d'orchestre pour faire un arrangement musical de ces chansons, de ces airs de revue, de ces sur l'air 2. Et puis pour toute une autre, pour la deuxième partie du spectacle, là ce sont des mélodies déjà écrites. Donc c'est un travail de pianiste, de musicien pour réimaginer cette musique.
Alors, tout au long du spectacle, vous êtes sur scène et on entend le son du piano et les voix des interprètes dans un rythme plutôt endiablé, très fantaisiste. Alors, quelle touche fantaisiste apportez-vous, vous, à ce monument de la fantaisie qu'est Guitry?
Ma touche de fantaisie, il s'agit surtout d'attraper au vol tous les rythmes et toutes les différences de rythme des chanteurs et des comédiens qui sont sur scène. C'est ce que j'apprécie le plus. En fait, c'est cette rythmique endiablée de la revue, cette espèce de vitesse, de virtuosité et ce goût pour le texte. On est là pour ça. La musique, c'est un décor. Voilà. C'est un décor très fantaisiste d'ailleurs, mais c'est un décor. Voilà où je m'amuse, en tout cas.
C'est le rythme de la langue qui prime.
Oui, oui, oui.
Qu'est-ce qui est le plus difficile alors?
Qu'est-ce qui est le plus difficile? Mais cette musique, c'est une musique, comme on dit, facile.
Oui, mais nous, quand on a été spectateurs tout à l'heure de la répétition, on a trouvé ça extraordinaire. Évidemment, ça paraît tout simple, on n'a pas l'oreille très musicale. Et puis on s'est rendu compte au fur et à mesure de la répétition, quand même, là, il y avait un travail énorme au niveau du rythme, de comment se caler entre les différentes voix, vous. Donc c'est pas évident.
C'est vrai que ce qui est difficile est du domaine du rythme du spectacle et aussi du fait que les musiques qu'on joue sur ces textes de Sacha Guitry sont très très variés stylistiquement,
oui.
Puisque les premières doivent dater de la Première Guerre mondiale et les dernières de la Deuxième Guerre. C'est
alors,
une grosse période.
Alors parlez-nous de ces compositeurs, justement, un petit peu.
Pour les premiers, pour celui qui a...
Pour
la Revue de Paris, c'est essentiellement Claude Terrasse qui a fait des arrangements ou des citations d'autres morceaux d'opéra, d'opérette, de chansons populaires de l'époque.
Parce que la caractéristique de la revue, c'était justement d'écrire des chansons sur des airs connus.
Sur des airs connus ou sur, comme ça se passait dans des théâtres, sur la programmation que le théâtre avait faite dans l'année. Donc c'est, on brasse large.
D'accord.
On brasse large. Bon, évidemment, on va pas trouver de la musique baroque, mais tout le reste est quand même assez riche. Ce que je trouve le plus intéressant dans ce traitement, c'est qu'un seul auteur, Sacha Guitry, traverse le siècle.
Traverse un demi-siècle de compositeurs.
Et voilà, et connaît aussi l'évolution musicale pour la musique légère de l'époque avec l'apparition du jazz et l'utilisation du jazz. Donc, pour moi, c'est ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est d'arriver du répertoire léger de l'époque, de l'opérette, jusqu'au répertoire de Charles Trenet, qui fonce clairement dans le swing.
Voilà. Alors, Charles Trenet, qui devait écrire pour le dernier troubadour, donc il devait écrire les partitions. Enfin.
Oui, c'est ça, mais je crois que le projet, en
alors,
fait...
Alors, le projet est tombé à l'eau.
Il est resté à l'état d'esquisse, donc non, il n'y en a pas eu de musique.
Non, puisque c'est Patrick Laviosa qui l'a faite pour cette soirée de gala. Mais dans la chanson, il y a une chanson qui... On n'est pas des azous pour ça. Effectivement, là, il y a beaucoup de jazz, une soprano qui chante du jazz. Mm-hmm. Enfin, ça, c'est dans d'autres parties du spectacle. Mais là, il y a ce mélange des musiques. Quel plaisir ça fait aux musiciens que vous êtes.
Le plaisir que j'ai à travailler avec des gens de théâtre, en tant que musicien issu du classique, pour moi il est immense parce que ça remet en cause la manière de faire la musique. Pour tout ce spectacle, le fait de travailler avec deux chanteurs et deux comédiens, ça impose de retrouver une manière de chanter et de faire la musique qu'on a perdu maintenant parce qu'on s'est trop spécialisé, mais qui, au début du siècle dernier, était tout à fait monnaie courante. Un chanteur d'opéra était aussi un chanteur d'opérette, était aussi un chanteur de chansons populaires et était aussi un très bon diseur. Chacun avait ses spécialités, mais les petites cases n'étaient pas aussi définies. Pour moi, musicien, je suis pas venu faire du Chopin et du Liszt ici. Je suis venu m'amuser et faire un son de piano qui n'est pas dans les standards du grand piano romantique, puisque c'est pas ce qu'on défend comme musique. On est là pour vraiment s'amuser. On annonce une couleur de spectacle qui n'est pas vraiment triste. On a quelques chansons qui sont plutôt romantiques, oui. Plutôt sirupeuses, oui. mais comme la balade en si bémol ou comme la chanson de Signavine, Ton visage, qui est complètement étonnante. Oui. On a un petit peu toutes les couleurs et on peut, dans le registre de cette musique plutôt légère, on peut faire passer aussi beaucoup d'émotions.
Et on a aussi la voix très forte de Frédéric Varda, la belle voix qui est justement une voix de soprano.
Une vraie voix de soprano, une vraie soprano coloratour. Donc il faut en profiter, il faut l'utiliser. On a aussi Franck Cassar qui est un merveilleux ténor avec qui j'avais déjà travaillé auparavant. Et ce sont des voix qui conviennent très bien aussi pour ce répertoire, quoi qu'on en dise.
Parmi les compositeurs, ça va de Alec Signavine à André Messager. Il y a une grande diversité musicale. André Messager a été membre de l'Institut et de l'Académie des Beaux-Arts. Donc on a une grande variété de musique là que vous avez déjà évoqué, que vous évoquez. Qu'est-ce qui fait par exemple que Guitry pouvait comme ça faire appel à tous les gens de la musique, tous les artistes, tous les compositeurs de l'époque, dans tous les genres?
Je crois que tout le monde savait ce que faisait Sacha. Mmh. Et Sacha veillait bien à faire savoir ce que faisait Guitry. Je pense que l'univers dans lequel évoluait Sacha Guitry était pas du tout morcelé. Voyons voir trois ou quatre mariages avec des personnalités très très variées du théâtre et du théâtre musical. Enfin, ce qui pour nous serait absolument incroyable, ce serait d'avoir un chef d'orchestre qui sortirait avec Madonna puis avec Montserrat Caballé. C'est pas possible. Voilà.
Pourquoi pas?
Ce serait plus maintenant. Je crois que ce serait pas possible. À l'époque, c'est pas du tout gênant. Guitry est un grand, très grand homme de théâtre et de cinéma. Les compositeurs qu'il a pu côtoyer, qu'ils soient dans le registre léger ou dans le registre opéra, quelqu'un comme Messager est un compositeur extrêmement honorable, mais c'est une canaille. Comme les gens de l'entre-deux-guerres ou de la première guerre, ils ont aussi leur côté canaille. Pas aussi collé-monté qu'on veut bien imaginer d'après leur musique, qui est simplement de la musique bourgeoise et amusante.
Vous êtes les dignes héritiers de Guitry en acceptant ce mélange pour l'art, en fait.
Ben, je l'espère. En tout cas, je me suis un peu nourri d'enregistrements de l'époque. Je me suis un peu nourri de la voix d'Arletty, qui est une chanteuse.
Dont la diction chante déjà.
Ah, dont la diction chante et qui chante aussi.
Oui, oui, oui.
Et qui chante aussi, qui est une voix absolument incroyable. Bon, moi, c'est le son d'une époque que j'aime beaucoup. On ne pourrait plus chanter comme ça maintenant. Il faut la réinventer à notre manière. Mais c'est très facile. Il suffit de s'en donner la peine.
Alors, dans le pot-pourri du voyage.
Ah.
Alors, ça, il y a plein de bijoux dans ce voyage, dans ce spectacle, mais le pot pourri du voyage, c'est quand même pas évident à monter sur scène.
Alors, le pot pourri du voyage, c'est un pot pourri où il y a pas moins de 25 citations musicales enchaînées en moins de 5 minutes.
À peu près, oui.
Voilà, donc ça va très vite.
C'est de la prouesse.
Ça va de la chanson enfantine au grand opéra. Mais ça va vite. Et on n'a pas le temps de s'installer qu'il faut déjà partir. C'est un voyage. C'est très amusant à faire.
Jean-Yves Hézic, merci beaucoup.
Merci à vous.
Tout ça, c'est pas de ma faute à moi. Tout ça, c'est de la faute de cette garce. C'est elle qui m'a fait cette sale farce. Et je vous jure bien qu'elle me le paiera. Mais d'ailleurs, c'est toujours comme ça. Et dans la vie, c'est un principe. C'est celui qui a pas la grippe qui paye toujours pour celui qui l'a. Vivent ceux qui n'ont pas de maladie. Rien ne vous gâche la vie comme ça. Et cependant, ça n'arrête pas d'un bout à l'autre de la vie. Déjà, l'on risque en venant au monde d'avoir la gueule toute de travers, les bras trop courts, les jambes toutes rondes ou des tas de poils sur le derrière. Et dès qu'on est venu, on a la rougeole qui commence, je crois, par la roséole et qui se termine sans façon. Et nos deux petites sœurs l'attrapent dans le cœur. Puis c'est la scarlatine, le rouge est mis partout. On dit c'est la voisine qui l'a foutu chez vous. Mais si votre voisine ne l'avait pas du tout, c'est votre scarlatine qu'elle l'attraperait chez vous. Zou!
Christophe Mirambeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur artistique de la seconde partie du spectacle de la soirée Sacha Guitry de la Bibliothèque nationale de France qui a lieu le 26 novembre dans l'auditorium du site François Mitterrand. C'est une soirée théâtre et musique. Vous vous êtes occupé de la partie musicale, mais précisons que la pièce Un soir quand on est seul, une fantaisie en un acte de Sacha Guitry, y sera présentée en première partie. Alors la seconde partie du spectacle de gala est composée de chansons, d'extraits de revues et de comédies musicales sur, évidemment, des paroles de Sacha Guitry que vous avez sélectionnées, mises en scène. Christophe, vous êtes un passionné de théâtre musical et nos auditeurs vous connaissent bien sur Canal Académie. Comment est née l'idée de ce spectacle Sacha en chanson ?
L'idée est née de manière très très simple. J'ai été contacté par la Bibliothèque Nationale et Gallimard pour écrire dans le catalogue Sacha Guitry, qui accompagne la grande exposition commune Cinémathèque Française et Bibliothèque Nationale. Et j'étais chargé, évidemment, d'écrire sur le sujet qui est l'objet de mes recherches, à savoir le théâtre musical d'entre-deux-guerres et le théâtre musical très particulièrement de Sacha Guitry, qu'il s'agisse à la fois d'opérettes et de comédies musicales ou sujet beaucoup plus rare, et dont je pense que je suis l'un des spécialistes, la revue satirique, à ne pas confondre évidemment avec la revue à grand spectacle, à plumes, à escalier et à seins nus, qu'a illustré Sacha Guitry. Donc la revue satirique qu'il a illustrée depuis 1916 avec Albert Villemette la plupart du temps.
Voilà, sur lequel vous avez écrit un livre. On va pas rentrer dans tout ce théâtre musical que vous nous aidez à redécouvrir aujourd'hui, vraiment. Alors, ce spectacle, Sacha en chanson, merci, c'est très facile à dire, ne sera joué qu'une seule fois.
Hélas, mais qui sait, qu'il sera peut-être repris, enfin.
Ah, espérons.
Très gros travail pour tout le monde, pour les artistes, pour une seule représentation. Mais qui nous donne du bonheur déjà, donc ça c'est
déjà quelque chose. Alors qu'allons-nous entendre le 26 novembre à 20h ?
Alors nous allons entendre d'abord tout un patrimoine inédit qui est conservé dans le fond Sacha Guitry, la collection Sacha Guitry conservée à la BNF, dont est responsable le conservateur général Noël Giray, qui m'a beaucoup aidé pour ce projet-là, évidemment, puisque nous avons fouillé à deux tous les cartons et tous les...
Et Dieu sait qu'il y en a.
Et Dieu sait qu'il y en a, vous le savez, Marianne. Et donc, pour retrouver ce qui est était retrouvable, bon, etc. Et puis, il se trouve que j'avais un fantasme personnel. J'ai beaucoup travaillé sur la revue de Paris d'Albert Villemette et Sacha Guitry. Et ce matériel, comme tous les matériels de revue, est parce que c'est du spectacle instantané qui meurt avec l'actualité.
Et oui, alors, parce que c'était, donc, si moi j'ai bien compris, des spectacles faits chaque année. Assez souvent, sur l'actualité, c'est
absolument
une mise en distance
sur l'actualité.
Exactement. On parlait des ministres, on parlait de tout.
C'est un travail de fantaisie sur l'actualité. Ça a donné plus tard les chansonniers, bien
voilà.
Entendu.
Tout cet art du spectacle.
Et ça peut en effet concerner l'actualité politique, l'actualité théâtrale, l'actualité sociale, et qui s'est fait à base de Sur l'air 2, c'est-à-dire les chansons connues sur lesquelles on pousse de nouvelles paroles. concernant le sujet que l'on traite. Et donc,
sur les chansons populaires, des vieilles
absolument.
Chansons françaises,
et on a adapté ce que j'appelle le pot commun. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des chansons que tout le monde connaisse.
Voilà.
Parce que la chanson n'est pas importante. Ce qui est important, c'est le référent de la chanson. C'est-à-dire comment les mêmes voyelles, etc., ont été réutilisées avec des consonnes nouvelles pour faire de nouveaux mots. Et comment le sens de la chanson a été détourné par rapport aux nouvelles paroles, dont on se rappelle, évidemment, parce que c'est quelque chose qui est inscrit dans le patrimoine commun, par rapport à la nouvelle écriture. C'est aussi ce plaisir-là intellectuel et qui est accessible, évidemment, intellectuellement à toutes les classes de la société.
C'était un genre très apprécié, très
populaire. C'est un genre extrêmement à la mode, puisque depuis 1850, la revue, il y en a au minimum une par an par théâtre, ce qui s'appelle la revue de fin d'année.
Ouais. Et alors, celle que vous avez choisie, pardon, la revue de Paris, qu'est-ce que c'est, justement ?
Alors, voilà, donc cette revue de Paris est une revue écrite pour le théâtre du Vaudeville, ça a démarré le 30 octobre 1918, jusque, si je ne dis pas de bêtises, au 19 janvier 1919, dans ce théâtre du Vaudeville qui n'existe hélas plus, dont Sacha Guitry était le directeur artistique. La direction artistique lui avait été confiée par Gustave Quinson qui possédait ce théâtre. Et donc, il a décidé de faire une revue sur, évidemment, l'actualité de l'année. Ça allait tomber très très bien, puisqu'on arrivait en fin d'année et que quand même les rumeurs d'armistice et de fin de guerre étaient quand même tout à fait claires.
Et voilà.
Voilà.
Donc c'était aussi le temps des retrouvailles, avec la paix aussi, avec la joie. Parce que,
absolument.
Même si les revues n'ont pas cessé pendant la guerre.
La joie n'a quand même pas cessé, parce que c'est aussi le principe de Paris, etc. Et alors, donc, cette revue de Paris, dont le manuscrit musical, veux-je dire, était réputé perdu, j'avais entériné personnellement que je ne le retrouverais jamais. Que je pleurerais toute ma vie la perte de ce manuscrit, la non-existence de ce manuscrit. J'arrive chez Noël pour mes études, pour mes travaux, etc. Et puis évidemment, on commence à ouvrir les cartons, faire les choses et tout ça. Et je tombe sur le manuscrit autographe de l'arrangeur du spectacle, le grand compositeur Claude Terrasse. Le manuscrit autographe qui me donnait une partie de la pièce en piano chant, c'est-à-dire la partie de piano avec lequel dirigeait Terrasse et le chant par-dessus. Et pour l'autre part de la pièce, le matériel d'orchestre. Bon, tout n'est pas complet dans aucun des sens, mais il y a de quoi reconstituer. Voilà.
Et c'est ce que vous faites dans ce spectacle, c'est-à-dire des recréations, mais il n'y a pas que ça, en plus on va en parler, mais c'est un travail considérable de restauration, j'imagine, je suppose.
Absolument,
parce que,
et c'est ça qui est
Moi, je n'ai pas vu ces documents-là, j'en ai vu d'autres à la BNF, grâce à Noël Chiret, c'est vrai, rendant lui hommage. Mais ça doit être quelque chose quand même, c'est tout un travail. Ça.
Oui, c'est tout un travail de conceptualisation, d'intellectualisation de la chose, évidemment. Et puis, la revue, encore une fois, c'est sur des sujets d'actualité, tout n'est pas remontable, tout n'est pas remontrable.
Ah, alors là, vous avez choisi des choses extraordinaires. Cette année 18, évidemment, on y pense. Il y a la chanson de la grippe espagnole.
Pour ça, c'est une chose qui a absolument affolé les contemporains, parce que la grippe espagnole...
Nous, on a la grippe aviaire, on en a d'autres. Ça nous manque, l'esprit de Guitry, aujourd'hui.
Cette maladie qui n'a rien à voir avec une grippe et qui est un virus d'une violence inouïe. Au 30 octobre, le jour de la première, 1918, on en est déjà à 2 millions de morts, quoi. C'est vraiment un sujet atroce d'actualité pour tout le monde. Et Guitry et Villemestre osent un numéro virtuose, brillantissime, qui est un catalogue de maladies plus atroces.
Ah oui, c'est terrible. Ça commence par quand vous arrivez au monde. Oui, parce que la grippe espagnole, c'est ça le clou et le bijou de la chanson, c'est que ça n'arrive qu'à la fin. Hein, ça commence avec la naissance. Au début, les paroles, c'est déjà quand on arrive au monde, on risque de naître avec la gueule de travers. Puis on a toute l'énumération des maladies infantiles. Puis alors le lumbago. Donc là, moi qui ai la quarantaine, je me vois déjà à chanter ça. Puis alors, je ne sais pas si c'est une invention de Guitry, on entend parler de variole noire,
oui,
à moins
absolument.
Que c'est une invention.
Non, ça
existe bien.
Ça existe, la variole noire.
Donc variole noire, goutte sur les genoux. Et alors, il y a un moment aussi très savoureux sur la furonculose, le clou de la saison, enfin bref. Et puis on arrive à la fin.
de la chanson sur la grippe espagnole. Et effectivement, après toute cette énumération, ce désastre humain qui touche...
Qui est chanté sur l'air de la Machiche de Mayol, ah, voilà. Félix Mayol, qui est quand même une espèce de chanson exotique 1900, qui est un énorme succès, qui est populaire au-delà du populaire à ce moment-là, et c'est d'une provocation inouïe de mettre le mot grippe espagnole sur... C'est la danse nouvelle, mesdemoiselles, la Machiche, etc. Bon, c'est quand même une hallucination de provocation et de plaisir potache du mauvais goût,
oui.
Du gag énorme, de tout oser.
Voilà.
Tout oser. Alors, revue permet tout et on ose.
C'est un espace de liberté
absolument.
Par excellence. Mais alors, en plus, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est aussi un carrefour de rencontres sociales.
Parce que absolument.
Vous dites que c'est un genre extrêmement populaire. Et voilà.
Tout le monde va à la revue.
Je ne sais pas si on a l'équivalent aujourd'hui.
Non.
Quelle époque ?
À la radio. Non, à la radio, d'une certaine manière, à la radio, certaines émissions. Mais l'équivalent visuel de ce type de spectacle, les chansonniers Le Chœur de la République, etc., donnent une idée de ce qu'est la revue de chansonnier, qui est quelque chose de très, on va dire... né dans les années 30, où il y a quatre personnes qui racontent des bêtises drôles et spirituelles sur l'actualité et qui font des sur l'air d'eux, effectivement. Mais ça n'a pas l'ampleur, évidemment, de ce que représentait un spectacle à 20 personnes, avec orchestre, des décors,
et un
tout
public,
ça, pour une exploitation qui va durer, 3 mois, 4 mois, maximum, qui va être... jeter au feu.
Et travailler comme des fous.
Oui, bien sûr.
Et puis, on ne s'en rend pas compte quand on voit tout ça. On a l'impression d'un amusement continuel. On prend
une très grande difficulté d'exécution.
Alors que c'est en plus une très grande difficulté d'exécution. On va revenir là-dessus un petit peu plus loin. Juste abordons en quelques mots la chanson du pompierisme, puisqu'elle est aussi extraite de la Revue de Paris. Elle est un petit peu particulière, mais on parlait de liberté de ton de Sacha Guitry. Là, c'est une satire violente contre le goût conventionnel. Alors, quelle est votre petite pointe à vous ? Dans cette sélection-là de la Revue de Paris, vous avez choisi, j'imagine, des chansons.
Ça n'est absolument pas objectif, forcément.
Alors, est-ce par hasard ?
Non, la chanson du pompierisme m'a amusé à la folie, mais il y a bien des années, quand j'avais lu le manuscrit autographe de Wilmette là-dessus, qui était conservé dans un fonds privé, parce que je trouvais très très gonflé cette chanson-là, qui racontait tellement Guitry sur « Je suis collectionneur d'art, mon chez-moi est un petit musée personnel ».
Effectivement, c'est le 18 Élysée Reclus, son hôtel personnel.
Voilà. Je connais tous les peintres qui comptent dans le Paris du moment, j'ai des toiles chez moi, et j'adore Degas. Et il y a eu une vente de gars il n'y a pas longtemps, et on y a vendu aussi des tableaux pompiers. Et on est en guerre, et ça pervertit le goût. Et moralité, ce sont les sujets cocardiers et les toiles pompiers, c'est-à-dire très illustratives, très descriptives, un peu grandiloquentes, avec des détails quiteux partout, qui remportent la mise et qui sont achetés au prix les plus forts.
Alors, ça scandalise Guitry, il en fait une chanson. Écoutez, il faut vraiment que vous alliez le 26 novembre à l'Auditorium, parce que c'est un véritable bijou. Dans le spectacle, il y a aussi une comédie musicale et un inédit absolu, une première absolue, qui est le dernier troubadour. Alors, racontez-nous la particularité de cette comédie, et puis quand et comment l'avez-vous découverte, elle aussi? Alors ça n'a jamais été joué, c'est bien?
Non,
ça?
Non, jamais.
Alors, racontez-nous.
Alors ça, c'est une chose dont j'étais au courant, bien entendu, que je savais exister, et puis comme je suis en train de travailler sur mon prochain bouquin, qui est un bouquin sur l'occupation, je relisais naturellement, et puis il se trouve que je vais écrire une bio de Guitry, alors
dedans.
J'étais complètement dedans, je relisais un livre qui m'émeut, de Sacha, qui est donc les 60 jours de prison.
Voilà. Moi, j'en ai lu la partie, le manuscrit, voilà. C'est extraordinaire.
C'est extraordinaire. Et les 4 ans d'occupation,
avec les petits dessins, enfin bon, bref.
Voilà, c'est quelque chose. Bon, voilà. Et j'étais très émue en lisant ça, évidemment, parce que l'amertume de Sacha, la souffrance qui transparaît de chaque ligne de ce bouquin, bon, bref, je lisais ça avec passion, en faisant du décodage, forcément. Et tout d'un coup, je retombe sur l'anecdote du dernier troubadour. Et je me dis, mais oui, mais c'est bien sûr, mon pauvre Mirambeau, faut que tu cherches là-dedans, il y a quelque chose à chercher. Alors, évidemment, je fonce à la BN, je vais voir Noël Giray, notre panacée. Et je lui dis, Noël, sortez-moi Dernier Troubadour, s'il vous plaît. Et je lui dis, je veux lire, je veux savoir ce qu'il y a dedans, je veux savoir qui, que, quoi, qu'est-ce. Voilà. Et là, je lis évidemment la pièce, c'est-à-dire l'acte que Guitry a écrit, la lettre à la propagande à Staffel. Nous sommes sous l'occupation et nous sommes en 1943.
Alors, vous trouvez cette lettre ?
Je trouve cette lettre, évidemment, je la lis. Et puis bon, ça raconte l'histoire du dernier troubadour. C'est une lettre adressée au lieutenant Lucht. D'ailleurs, tenez, je l'ai sous les yeux. Voilà.
La table est pleine de papiers entre les miens et les vôtres.
Guitry. Paris, 24 juillet 1943, 18 avenue Élysée-Reclus. Monsieur le chef de la censure allemande, Paris. Monsieur, je dois donner au mois d'octobre prochain une comédie musicale intitulée Le dernier troubadour. C'est monsieur Charles Trenet qui en fera la musique et l'ouvrage sera joué et chanté par Geneviève Guitry, ma femme, et par Charles Trenet dans les deux rôles principaux. Étant sur le point de commencer d'écrire la pièce, je vous en adresse le résumé. Là, Sacha fait le résumé de la pièce et donc il demande l'autorisation de jeu pour cette pièce qui va être jouée à Édouard VII. Évidemment, la conclusion de la lettre après l'histoire dit « Il m'apparaît qu'un tel ouvrage, traité légèrement, peut apporter un peu de réconfort à nos compatriotes malheureux. Et en attendant votre visa préalable, je vous prie, monsieur, de bien vouloir agréer le témoignage de mes sentiments distingués. »
Alors, on sait après que malheureusement,
le luxe en question lit la pièce qui propose un retour.
Alors, que raconte-t-elle? Parce que ça aussi, c'est savoureux.
Ça raconte l'histoire de jeunes gens qui sont en train d'écouter la radio et qui parlent de qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe?
Alors,
C'est un couple avec des copains, voilà. Ouais. Et puis, ils ne savent pas comment tout ça va finir.
Ils s'inquiètent.
Voilà. Ils s'inquiètent. Ce qui suggère quelque chose d'assez intéressant parce que comment tout ça va finir. C'est très amusant. En 1942, quand même, en juillet 42, il y a une grande exposition au musée Galliera sur le théâtre d'après-guerre, qui est donc juin 40, juillet 1942. Voilà, donc on est dans un Paris où on considère que la guerre... est fini. Enfin, en tout cas, c'est la position officielle. Ouais. La guerre est finie, on est dans l'après-guerre.
Et on se demande qu'est-ce que c'est que cette période.
Voilà, et Guitry dit comment tout ça va finir. Donc, moi, j'adorais cette petite notion comme ça, où nous, là, on a le recul du passé, mais lui a quand même la conscience que non, ça ne va pas rester comme ça, on n'est pas en après-guerre, voilà. Et donc, il fait apparaître une fée.
Ah, ça, c'est formidable. Donc, ce couple...
Ce couple fait tourner les tables pour interroger les esprits. Voilà. Il fait apparaître une fée dans un salon.
Oui.
qui propose à ce couple incrédule, d'arrêter de se plaindre, parce que l'histoire se répète, et que pour savoir comment tout ça va finir, il suffit d'aller voir dans le passé comment les choses se sont passées. Ça, c'est des mots de Guitry que je cite. Évidemment, le couple, après quelques petites interrogations boulevardières, accepte de retourner dans le passé. Et la fée lui propose de retourner en 1428 ou 29, pendant l'occupation anglaise.
Ouais, ce n'est pas un hasard choisi par Guitry.
Et ce n'est pas du tout un hasard. Et donc, au deuxième acte, qui n'existe pas, alors, nous connaissons l'histoire.
Ouais.
Charles Trenet se retrouve à être le dernier troubadour qui chante dans les tavernes. Et il est là pendant l'occupation anglaise qui dure 100 ans.
Alors ça, on ne le voit pas, on ne l'a pas.
Mais non, on ne l'a pas.
Là. Alors l'idée...
Et en plus, ça se termine quand Jeanne d'Arc apparaît, quoi, l'occupation anglaise et tout. Alors bon, évidemment, c'est l'éternel symbole de la France, de Sacha. Et puis, il vient quand même de pondre, il est en train de pondre de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain.
Oui, un de ses grands ouvrages.
Voilà, tout ça fait
un catalogue des grandes figures.
Voilà, les grandes figures, les merveilles du moment. Et dans la lettre qu'il propose à la censure, qu'il envoie à la censure, Sacha dit « Pendant tout ce deuxième acte, il y a bien entendu des allusions à la vie que mènent actuellement les Parisiens. Difficulté à se procurer de l'étoffe pour se vêtir, des aliments pour se nourrir, etc., etc., marché noir, etc., etc. » Et puis au troisième acte, ils reviennent du passé, ayant compris bien des choses, je cite toujours Guitry, « plus intelligents, plus confiants dans leur pays ». Et plus amoureux aussi l'un de l'autre. Finalement, nous sommes quand même dans une gentille petite fantaisie de divertissement.
Et une histoire d'amour.
Il faut quand même une histoire d'amour. En plus, C'est un couple marié, hein, tout va bien. Et je l'ai fait remarquer à mes acteurs hier. J'ai dit, est-ce que vous avez remarqué quand même, est-ce que ça, ça vous a frappé, le personnage masculin principal s'appelle Philippe.
Eh oui.
Voilà, tout ça fait sens. Voilà.
Par rapport à, évidemment, Philippe Pétain.
Tout ça par rapport à Philippe Pétain. Et Geneviève Guitry s'appelle, en gros, elle, comme d'habitude, chez les femmes de Guitry.
Donc, ce qu'on verra, c'est le premier acte, hein, voilà. Lundi.
Parce qu'il était en train d'écrire ce premier acte. Et puis, la réponse de la propagande à Schaffel arrive. Et on dit non, ça va faire le bonheur des gaullistes. Et dans les occupants, on ne verra que nous.
Voilà. Alors, Charles Trenet n'a donc pas pu écrire la musique et vous avez confié ce soin au compositeur Patrick Laviosa, qui a reçu le prix Maurice Yvain en 2007 et un Molière pour le Cabaret des Hommes Perdus. Alors, quel style a-t-il adopté ? Comment a-t-il fait passer en même temps ou conservé, mis en valeur, disons, à la fois la fantaisie des textes de Guitry, la musicalité de sa langue, parce que ça, c'est, j'imagine, un point essentiel que vous avez, vous, et aussi lui, pris en compte. Donc, il y a une touche fantaisiste ou d'humour décalé aussi sur le plan musical. Qu'est-ce qu'il a choisi ? Je ne sais pas, on entend « On n'est pas des azous », c'est dans cette partie-là, hein, me semble-t-il. C'est une chanson qu'on entend à ce moment-là sur un air de jazz endiablé. Alors, parlez-nous du travail de Patrick Laviosa.
Alors d'abord, donc quand j'ai trouvé ce manuscrit, évidemment, je sautais au plafond, etc., etc. Et là-dessus est tombée la proposition de concert au Grand Auditorium. Et j'avais par ailleurs un autre projet avec ce manuscrit. Donc d'abord, j'ai demandé l'autorisation. Voilà, l'autorisation d'utiliser ce manuscrit à l'ayant droit de Sacha Guitry, que je remercie d'ailleurs beaucoup.
Jacqueline Aubard, dont on a une interview d'ailleurs.
Qui m'a autorisé d'abord à utiliser ce manuscrit, ce qui n'était pas forcément évident, parce que, en fait, vous savez bien, on entend encore des... Passez-moi l'expression, mais j'ai envie de dire ce mot qu'il ne faut pas dire sur Canal Academy. J'ai envie de
Quel
dire
mot
le mot « connerie ». On entend encore c'est des conneries aussi énormes que possible. J'ai encore entendu cette semaine quelqu'un qui m'a dit « Ah oui, Sacha Guitry, ce gros collabo ».
Oui.
Bon, qui est une sottise immense qui prouve à quel point les gens, la culture est quand même le bien le mieux partagé en France et sans doute ailleurs. Uh-huh. Et donc, ces jugements à la emporte-pièce sont extrêmement détestables et néfastes à Sacha Guitry, parce que la question de la collaboration de Sacha Guitry, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil que de dire qu'il y a gros collabo. Bon, il a fréquenté les Allemands, mais il a fait sortir 42 000 juifs, il a aidé 712 000 personnes. bon, et c'est très compliqué, ça ne se résume pas d'une phrase, jeter à l'emporte-pièce. Donc, Jacqueline Aubard m'a autorisé à utiliser ce manuscrit aussi, avec dans l'œil cette notion-là. Il ne fallait pas que ce soit néfaste à l'image que pouvait avoir Sacha, parce qu'on se bat pour rétablir la vérité, parce que rien n'est ni blanc ni noir dans ces affaires-là. Il n'est ni tout blanc ni tout noir. Hein, et je renvoie au catalogue sur la question. Et donc,
alors,
après,
sur le plan musical.
Après, j'ai demandé l'autorisation de faire mettre en musique.
Ah oui, ce qu'elle a accepté.
Les deux chansons contenues dans cet acte, oui. Ce qui n'était pas évident, parce qu'on peut penser à un crime de lèse-majesté, comment c'est Charles Trenet, machin. Bon, j'ai d'abord vérifié évidemment qu'il ne restait rien, en tout cas d'accessible.
Oui. C'est vraiment la première.
De Charles Trenet, qui a écrit un dernier troubadour en 1947, qui est peut-être de la musique qu'il avait préméditée pour le dernier troubadour de 1943, mais je n'en sais rien, nous ne sommes pas allés chercher dans les archives Trenet, tout ça a été très 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 compliqué. Et donc j'ai demandé à Jacques Nobard si je pouvais demander à Patrick Laviosa, qu'elle connaissait par ailleurs pour l'avoir entendu dans le concert que j'avais fait à Saint-Gerre-Polignac il y a 2 ans.
À la Fondation Saint-Gerre-Polignac.
À la Fondation Saint-Gerre-Polignac, et elle m'a dit... D'accord, si vous faites donc, comme vous le dites, composer dans le style de Sacha Guitry, j'écouterai et je donnerai mon aval. Voilà. Et donc, j'étais vraiment content parce que, vis-à-vis d'un ayant droit, ce genre de démarche, c'est toujours très, très compliqué. Parce que les ayants droit, c'est normal, sont les gardiens du temple.
Oui.
Et on n'a pas la liberté artistique qu'on voudrait parfois, voilà. Et j'aime cette compréhension quand les gens disent « Allons-y, essayons ». Voilà. Et j'ai dit « Je veux Patrick Laviosa », qui est d'abord un ami personnel, quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, et dont j'apprécie le talent, absolument. Il a été donc moliérisé pour le Cabaret des Hommes Perdus, il vient d'avoir le prix Maurice Yvain 2007. Sa musique est toujours inspirée, elle demeure personnelle, et si je lui dis « Écrit dans le style de Charles Trenet », ça restera du Patrick Laviosa dans le style de Charles Trenet. C'est-à-dire qu'il y a l'hommage moderne, notre hommage de notre génération, nous sommes des gens de 35-40 ans, de notre génération à quelque chose de véritablement antérieur. Nous apportons notre couleur, nous apportons notre vision, notre manière d'envisager cet esprit-là, tout en respectant complètement les données primitives, le cahier des charges premier qui présidait à l'invention de ce projet.
Parmi les interprètes, il y a une soprano, Frédérique Varda. Et comment avez-vous fait travailler ensemble des comédiens chanteurs, une chanteuse d'opéra? D'ailleurs, Frédérique Varda semblait éprouver un réel plaisir en répétition à chanter tout ça, et tous vos comédiens chanteurs aussi. Donc comment avez-vous mélangé, disons, ces différentes formations et puis ces voix différentes? Tout ça semble dans une harmonie parfaite pour mes petites oreilles. Donc,
ça, c'est des questions d'acuité de casting, si je puis dire.
Oui.
Le casting, et c'est 80% de la réussite du concert, du spectacle. Ça paraît un truisme, ce que je suis en train de dire, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est encore plus vrai dans ce cadre-là. Tout le monde ne peut pas chanter tout.
Oui, en plus, voilà. C'est très, très difficile sur le plan technique,
donc,
la mémorisation
d'abord,
de la langue. Parce que
la langue de Guitry est très riche, et il y a beaucoup, beaucoup de mots, ça vous étonne. Et donc, et c'est toujours des mots différents.
Oui.
Et donc, il faut faire un travail de mémoire considérable. Du coup, en fait, j'ai choisi les gens par rapport aux pièces. J'ai dit, pour tel truc, il me faut un tel. Pour tel truc, j'ai pas fait une distribution dans l'absolu. J'ai d'abord réuni mon matériel, choisi ce que je voulais chanter, ce que je voulais entendre, ce que je voulais faire. Et ensuite, j'ai choisi mes artistes. Et je n'ai pas du tout fait le casting d'abord en disant qu'est-ce que je vais la faire chanter. J'ai fait le contraire. Et ensuite, faire travailler tous ces gens-là, je leur ai dit, vous êtes tous les mêmes face au matériel Guitry. Parce que quand même, au même titre que les spectateurs et auditeurs du concert n'auront jamais entendu ce qui va être donné, autant les chanteurs qui ont travaillé sur manuscrit n'ont jamais chanté de leur vie ce genre de machin.
Oui.
Ils sont toute une génération qui ne pouvait pas connaître ce genre de truc. Donc c'est de la découverte absolue sur manuscrit, et tout le monde est complètement vierge, et que ce soit qu'on vienne d'une école d'opéra, ou qu'on vienne d'une école de théâtre musical ou de musical, on est vierge vis-à-vis de ça, et il faut faire le même travail, la même démarche d'intelligence du texte et de la musique, complètement primaire, basique, que pour un autre
ouvrage. Alors, vous avez aussi choisi de mélanger les genres dans ce spectacle. Vous nous gâtez particulièrement, puisque vous avez inséré dans le spectacle une projection de Sacha Guitry avec Pauline Carton, un film qui lui aussi est un inédit,
si j'ai bien
compris. Donc, quel lien faites-vous entre les extraits de la revue, les chansons, ces choix-là? C'est intéressant, tout ce mélange. Ça aurait beaucoup plu à Sacha Guitry. C'est justement l'innovation. Donc, c'est un beau clin d'œil, c'est en écho à cet esprit. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi?
Guitry est protéiforme dans son expression artistique, que ce soit par le dessin, que ce soit par la pièce de théâtre, l'opérette, la comédie musicale, la revue, les livres de pensée, les livres, les films.
Alors là, il y a un extrait sonore et puis il y a un film.
Oui. Et en fait, dans la rue de Paris, il y a une chanson merveilleuse dans le quatrième acte qui dit « Maintenant, on va aller au Vaudeville, donc le théâtre du Vaudeville, où on joue la revue de Paris, pour aller voir Sacha Guitry jouer. »
D'accord.
Et il aura forcément un gros rôle. Et de toute façon, il va être content parce que Sacha adore qu'on sache ce que fait Sacha. Et Guitry adore quand vous parlez de lui, etc. Donc déjà en 1918, il est dans cette espèce de travail de miroir sur lui-même, cette espèce de désinvolture amusée de l'auteur qui ne se prend pas au sérieux et qui dit « j'ai un gros nombril ». Et j'adore qu'on me dise que j'ai un gros nombril. Et donc je me suis dit, cette chanson de Guitry, qui écrit sur lui-même, certes avec la plume amie d'Albert Villemetz, qui écrit sur lui-même, en se moquant, en se parodiant, etc. Je veux ça dans le concert, parce que ça, c'est très inattendu. Et je me suis dit, il est impossible de ne pas avoir Sacha juste après.
C'est pour ça.
Voilà. Et je veux qu'on parle de Sacha et qu'on le voit. Il faut qu'il soit là.
Il faut qu'il apparaisse à l'écran.
Il faut que Sacha soit là.
Mais il n'y a pas d'écran. Nous sommes au théâtre, mais il va y en avoir un. C'est la magie du spectacle.
Nous sommes dans une grande maison.
Voilà.
Et tout d'un coup, je parlais de ça avec Noël et j'irai. Et elle dit, le dîner de gala des ambassadeurs.
Eh oui.
Que je ne connaissais pas.
Ouais. qui on peut voir d'ailleurs à la BNF, à l'exposition, on en voit des extraits, et peut-être à la rétrospective d'ailleurs de la Cinémathèque française également.
Oui, absolument, il est programmé à la rétrospective. Mmh. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est bien sûr, excellente idée. Le hasard fait que, plutôt le bonheur de cette exposition fait que ça vient d'être diffusé en DVD en plus, donc ça veut dire qu'on peut le trouver en DVD. Mmh. C'est un petit film de 5 minutes, absolument délicieux, où il téléphone à Pauline Carton et lui demande de chanter les Palais de Suvier. Donc c'est un trop grand bonheur. Je trouvais que le lien était absolument formidable. C'est pour ça que entre la Revue de Paris et cette petite question, plus ma volonté de voir Sacha vraiment en vrai qui soit avec nous par film interposé, fait qu'on a voulu cette projection cinématographique.
Dans le même esprit, il y a un extrait sonore du film Le roman d'un tricheur qui vient ou qui précède une chanson chantée par Franck Cassard où il chante « Tout dans ce monde n'est qu'un jeu, l'honneur est un jeu de parole, le poète joue à pigeon vol, si j'ai bien compris. » La Loire est un jeu de tremplin et l'amour est un jeu de vilain. Et ensuite viennent l'extrait sonore.
C'est... Oui, alors comme vous avez assisté à la répétition, là je suis encore en train de réfléchir à tout ce qu'on fait. Et puis je pense qu'en fait, je trouvais formidable que cet extrait de Florestan Ier, qui est une recréation absolue.
Alors Florestan Ier, c'est Prince de Monaco, une opérette.
Écrite avec Wilmette et Richard Werner Heymann. Il se trouve que je possède la copie des manuscrits autographes de Heymann et j'ai reconstitué ces couplets du jeu. Ça raconte en gros comment Monaco est devenue Monaco, la capitale du jeu, des roulettes et des casinos. Et par une histoire tout à fait vraie, évidemment. Et je trouvais vraiment marrant ces couplets du jeu que je trouvais incroyablement spirituels. Je me suis dit, il y a évidemment roman d'un tricheur, voyons. Et tout d'un coup, s'est imposé à moi un plan du roman d'un tricheur.
Oui,
où on voit
qu'est-ce
Sacha,
que vous avez choisi?
Les mains de Sacha.
Ah oui, d'ailleurs, il aimait beaucoup les mains, parce qu'il les collectionnait, il a des sculptures chez lui.
Les mains de Sacha, et puis ça s'élargit dans un plan où il est à la roulette, où il est en train de jouer, etc. Et puis tout à l'heure, quand vous étiez à notre répétition, j'ai eu un insight, et je me suis dit non, je ne veux pas que ça se succède, je veux que ce soit superposé. Et
donc on va entendre
les couplets du jeu
en
voyant les mains de Sacha et Sacha jouer au casino, etc.
Ah, écoutez, là, on assiste à de la création en direct.
Voilà, vous ne pouviez pas le savoir parce que.
Non!
C'était
non
dans ma tête et je l'ai dit à personne.
Voilà, bah, écoutez, c'est une très très belle histoire. Un mot des décors, Christophe Mirambeau?
Oui, le vide.
Ah, le vide pour plus de place à l'imagination, bien sûr. Comment êtes-vous, pour finir, comment êtes-vous tombé dans la marmite Sacha Guitry, entre guillemets, Christophe Mirambeau?
Oh, c'est une marmite dans laquelle je suis tombé il y a très très longtemps, par plaisir des causes perdues. Et quand j'étais étudiant, je m'intéressais beaucoup aux compositeurs que tout le monde trouvait détestables et je comprenais jamais pourquoi les gens disaient c'est nul, il faut pas jouer ça, etc. Ça m'énervait, donc à chaque fois j'allais voir dans les textes, dans les partitions, pourquoi c'était nul, parce qu'il fallait que je comprenne, ça m'énervait. Voilà, et puis c'est du coup en cherchant, en lisant les trucs, je me disais non, c'est pas nul du tout, pourquoi on dit que c'est nul? C'est juste des questions d'interprétation, des questions de comprendre comment ça marche. Et voilà, et c'est comme ça que je suis arrivé, en gros, à l'entre-deux-guerres. Et puis, la période 1900-1950, et en gros, c'est une période où on ne peut pas passer outre Sacha Guitry. Donc, Sacha Guitry est une espèce de...
Un incontournable,
une figure absolue de cette époque, sur laquelle je me suis penché très très tôt. C'est une espèce d'évidence comme ça. Voilà.
Alors cette évidence s'est imposée à nous et nous, c'est votre passion qui s'impose à nous. Alors merci pour tout. Merci Christophe Mirambeau pour ce beau travail aussi de recréation, de restauration, de première absolue à partir de l'œuvre de Sacha Guitry. Donc j'invite tous nos internautes bien entendu à aller lundi voir ce spectacle à l'auditorium de la Bibliothèque Nationale. Sacha en chanson, c'est bien difficile
bravo
à dire.
Marianne,
j'ai
bravo,
réussi du premier coup.
Pour l'instant, je ne fais que l'écrire, ce titre, je ne l'ai pas dit.
Donc, un spectacle de joie et de bonheur dont nous sommes sortis des répétitions en voulant immédiatement se procurer les paroles. Pour les jours de blues, conseillons amusez-vous comme des fous, la vie est si brève, la vie est si courte après tout. Pour les jours où vous êtes malade, et bien ma foi, la chanson de la grippe espagnole que nous avons évoquée vous guérira instantanément. Et puis le jour où vous recevrez une décoration pour éviter de se prendre au sérieux, la chanson de la cravate est un bon antidote contre les égos déformés. Et puis pour les voyages, pour vos voyages, apprenez par cœur le pot pourri du voyage de Sacha Guitry. Une petite merveille entre Reims, Nogent-le-Rotrou, pour finir à Pau. Enfin bref, on apprend la géographie avec aisance et avec délice. Merci Christophe Mirambeau.
Merci à vous Marianne.